Les pieds sur terre, quartier d'été.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Le 15 janvier 2009, Chelsea Schellenberger décolle de l'aéroport de La Guardia à New York à bord d'un A320. 150 personnes sont à bord. À 900 mètres d'altitude, après le décollage, l'avion heurte deux oiseaux de plein fouet. Ils endommagent les deux moteurs. Le pilote doit atterrir d'urgence. Il appelle alors la tour de contrôle. « Cactus 1549, nous avons heurté des oiseaux. Nous avons perdu la puissance dans les deux moteurs et mettons le cap sur La Guardia. » Le contrôleur indique alors au pilote « Vous pouvez atterrir sur la piste 1 à Teterboro. » Le pilote, toujours très calme, répond « Ici Cactus 1549, nous ne pouvons pas. » La suite de la conversation entre le pilote et la tour de contrôle a été enregistrée, la voici.
Hey guys, Cactus 1529 over the George Washington Bridge wants to go to the airport right now.
Wants to go to the airport, check. Does he need assistance?
Yes, it was a bird strike. Can I get him in for runway 1?
Runway 1, that's good.
Cactus 1529, turn right 280, you can land runway 1 at Teterboro.
We can't do it.
Okay, which runway would you like at Teterboro?
We're going to be in the Hudson.
I'm sorry, say again, Cactus.
We're unable. We may end up in the Hudson.
Chelsea Schellenberger a 57 ans. C'est un ancien de l'US Air Force. Un passager du vol raconte « Tout d'un coup, le commandant a pris la parole et nous a dit de nous préparer, sans doute, à quelque chose de violent. » Le contrôleur lui demande « Ok, quelle piste préférez-vous » Le pilote, plein de sang-froid, répond « Ici, Cactus 1549, nous serons bientôt dans l'Hudson. » L'Hudson, c'est le fleuve à l'ouest de New York. Le contrôleur répond « Excusez-moi, pouvez-vous répéter Cactus ?» Ensuite, il n'y a pas de réponse. Le contact radar est perdu quelques instants après. « Je crois qu'il a dit qu'il allait se poser dans l'Hudson », dit alors un autre contrôleur. Quelques secondes plus tard, le pilote envoie un dernier message. « Nous avons atterri dans l'Hudson. » 78 passagers seront blessés, mais les 155 personnes de l'avion sont sauvées. Le commandant ne quitte pas l'avion avant d'avoir vérifié que tous les passagers ont été évacués. En un amerrissage spectaculaire, il devient un héros de l'Amérique, comme elle les aime. Aujourd'hui, dans Les Pieds sur Terre, c'est le deuxième épisode de nos quartiers d'été. Trois urgences à bord, dans un avion, un crash, un atterrissage et un sauvetage. Pour ceux qui hésitent encore entre le train et l'avion, ou encore mieux pour réconforter ceux qui ne partiront pas en vacances, c'est jusqu'à 14h30, Les Pieds sur Terre, quartier d'été, c'est un reportage de Valérie Borst.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Baya Bakari, j'ai 18 ans, bientôt 19. C'était le 29 juin, je partais aux Comores avec ma mère, parce qu'il y avait le mariage de mon grand-père, voilà. On est parti, on a pris l'avion, Paris jusqu'à Sanaa. Puis après à Sanaa, donc on est remonté dans un nouvel avion. Il était en moins bon état que le premier. Donc moi j'étais choquée parce que j'ai vu le premier avion, je me suis dit « Ah, il y a une grande différence !» Et bon, après, tout le monde s'est installé. Du coup, moi, j'étais côté hublot. La plupart des passagers dormaient, pas moi. J'étais pas tranquille. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris l'avion, donc j'ai préféré rester éveillée. Et on nous a annoncé qu'on allait atterrir. Donc, on nous a dit d'attacher nos ceintures. Tout se passait bien. Puis, je sens des turbulences. Donc, de là, moi, je regarde un peu autour de moi, parce que je sais qu'au premier atterrissage, j'avais pas senti ça. Personne ne réagit, donc je me dis, bon, c'est moi qui dois me faire des films, il n'y a rien de grave, c'est rien, voilà, il ne faut pas s'inquiéter. Et de là, j'ai senti une décharge électrique et trou noir. J'arrivais plus à bouger, j'étais figée et je ne me sentais pas tomber, j'ai pas entendu des bruits ou une explosion. J'ai aucun souvenir. Et de là, je me retrouve dans l'eau. Et je sais que je remonte vite fait à la surface. Il n'y a personne autour de moi, il y a juste 3 débris d'avion. Par réflexe, je prends le plus gros. Mes bras, en fait, ils étaient sur le débris d'avion. Et le reste de mon corps, en fait, il était dans l'eau. J'étais épuisée, j'avais plus de force, j'avais froid. Après, j'avais mal nulle part. Je sentais juste mon œil gonflé, mais j'avais pas mal. Et j'entends au loin des voix de femmes qui appellent à l'aide. Je suis sûre qu'il y avait plus de 3 femmes à ce moment-là. Donc, moi aussi, j'appelle à l'aide. J'appelle en français, comorien. J'essaye de rejoindre ces femmes, mais je les vois pas. Donc, je sais même pas par quelle direction aller, parce qu'il faisait vraiment nuit, noir, on voyait rien. Je suis endormie sur le débris d'avion. Et je me suis réveillée, c'était le matin, enfin, il faisait jour. Toujours agrippée avec mon débris d'avion, parce que j'étais parfaitement consciente que si je le lâchais et que j'arrivais pas à aller assez vite, je pouvais me noyer et voilà, que j'avais plus de chances de rester en vie si j'avais ce débris d'avion. Et je voyais au loin une île, donc j'essayais de la rejoindre, mais j'arrivais pas. Donc j'essayais par la nage, mais la mer, elle était vraiment agitée ce jour-là. Les vagues, elles arrêtaient pas de s'abattre sur moi. Et parfois, je voyais passer de la nourriture qui était dans l'avion, des petits sacs, et, mais rien, personne. J'entendais plus personne. J'étais toute seule à ce moment-là. Et je me suis dit que tout le monde était arrivé et que j'étais la seule à être tombée de cet avion. Je suis restée 10 heures dans l'eau. En plus, j'avais peur, parce qu'avant de partir, j'avais demandé à ma mère, est-ce qu'il y a des requins ? Elle m'a dit oui. Donc là, je me suis dit, ouais, c'est bon, je vais me faire manger par un requin, au pire, c'est fini, voilà. Après, je sais que j'avais quelques petites hallucinations, parce que je me retrouvais dans des jeux. Enfin, j'avais une DS, voilà, j'avais une DS dans l'avion, et il y avait des jeux.
Nintendo DS, c'est ça ?
Nintendo DS, voilà, et je jouais avec dans l'avion. Et j'avais l'impression que parfois je me retrouvais dans un jeu. Je comprenais pas trop. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ? Et je me disais, va à droite, va à gauche. Donc, voilà. Mais c'est ça, pendant les 10 heures, tu penses à tout ce que tu as fait un peu dans ta vie. Au début, je me suis dit, mais je suis jeune. J'avais même pas encore eu mes 13 ans. Et là, je vais mourir ici. J'ai rien fait dans ma vie, moi je voulais faire plein de trucs, et c'est de là où est venue l'idée que ma mère a survécu, et je me suis dit, ma mère, elle va retrouver, elle va déplacer tout Comore, elle va retrouver sa fille, il n'y a pas de souci. Donc au début des 10 heures, c'est ce que je me suis dit. Après, plus le temps passait, puis je voyais que déjà je n'arrivais pas à atteindre l'île. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, voilà, j'ai lâché prise. Mais vu qu'il y avait toujours cette idée que ma mère était là, j'ai rattrapé le débris d'avion, mais j'avais perdu vraiment tout espoir à ce moment-là. C'est là où j'entends des voix d'hommes. Ils venaient de derrière, donc je les voyais pas, je les entendais juste, je me retourne et je les vois. Et là, je lâche le débris d'avion pour rejoindre le bateau, parce que c'était un bateau de pêcheurs. Après, je suis restée sur le bateau jusqu'à qu'on me ramène directement à l'hôpital. Il y a une psychologue qui était assise à côté de moi, qui restait là. Elle m'a demandé si j'allais bien et tout, et si j'avais envie de parler. Bon, moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle veut ? Je la connais pas. Et puis, je lui ai dit, mais elle est où, ma mère ? Et après, elle m'a dit, oui, pour l'instant, t'es la seule qu'on ait retrouvée, et je pense pas qu'on va retrouver d'autres personnes. Moi, à ce moment-là, j'ai pas réalisé, enfin, je me suis dit, on m'a retrouvée, on peut retrouver d'autres personnes, et voilà. Et j'ai eu mon père au téléphone. Il m'a demandé si j'allais bien, mais c'était assez. Enfin, la conversation, elle était assez simple, enfin, pudique. Enfin, vu qu'il me voyait pas, il savait pas trop dans quel état j'étais, et il m'a expliqué après qu'il se disait, oui, mais ça se trouve, elle est handicapée, ou qu'il lui manque un membre, et du coup, il savait pas trop quoi dire à ce moment-là, donc on n'a pas beaucoup parlé. Donc voilà, après on m'a annoncé donc, oui, qu'on allait me ramener en France. Donc une fois arrivée, là on m'a examinée et c'est là où j'ai su vraiment tout ce que j'avais. Donc j'ai eu des brûlures au niveau des pieds, une fracture au bassin, la clavicule aussi qui était cassée, un problème au niveau de mon œil gauche. Après j'avais des petites cicatrices mais rien de grave. Voilà, je suis restée à l'hôpital Trousseau une 21 jours. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah oui, pour faire mes greffes, c'était fallait prendre de la peau au niveau de mon crâne. Alors ça a été un scandale pour moi parce que voilà, ça veut dire qu'on devait me raser les cheveux. J'étais en pleurs. Je me suis dit, voilà, ouais, déjà, mon œil il est gonflé, on va m'opérer, je vais avoir une cicatrice. Alors maintenant, vous voulez m'enlever mes cheveux, j'en ressemble à rien. Donc, j'arrêtais pas de pleurer par rapport à ça. Et au final, bah, c'est ce qui a fait, parce que, bon, j'étais encore mineure, donc c'était mon père qui devait me donner le dernier mot. Il m'a dit, non, mais sinon, après, c'est sur tes cuisses. Imagine, tu vas à la piscine. Après, tu auras des cicatrices sur les cuisses. Je fais, mais moi, je m'en fous, je vais pas à la piscine. Donc, c'était assez drôle. En pensant, bon. Je suis sortie de l'hôpital fin juillet, du coup. Une fois rentrée chez moi, là, j'ai senti que ma mère était vraiment plus là parce que c'était quelqu'un d'assez maniaque. Donc, tout devait être à sa place. Et là, je sentais que c'était pas du tout le cas parce que il y avait la rentrée qui approchait. Et je cherchais une calculatrice avec ma mère qu'on avait cachée parce qu'elle a dit « Oui, je vais pas t'acheter des calculatrices tous les ans, donc celle-là, tu la gardes, tu la mets là. » Et je l'ai cherchée à l'endroit où on l'avait mise et je la trouvais pas. Et là, ça a été le drame parce que je me suis mise à pleurer pour une calculatrice et je riais sur tout le monde. Et mon père, il m'a pris, il m'a dit « Oui, là, c'était pas énervé à cause de la calculatrice, Baya, c'est parce que t'as perdu ta maman et voilà. » Donc à ce moment-là, ouais, bon, j'ai continué à pleurer. Mon père, il m'a beaucoup soutenue, consolée, parce que lui aussi, il a perdu sa mère très jeune, donc ça m'a beaucoup aidée. Voilà, c'est un mal pour un bien, d'une certaine manière, parce que même mon père, j'étais pas du tout proche de lui, parce que ma mère, c'est elle qui faisait tout. Et là, donc la transition, elle a été difficile, on va dire. Donc après ça, 3 septembre, je rentrais en 4e, comme c'était prévu. Tout le monde m'a vu, tout le monde me regardait, mais j'étais là. Parce que j'avais besoin de retrouver quelque chose de normal, on va dire, dans ma vie. Au fur et à mesure, je m'étais beaucoup enfermée sur moi-même. Ma famille, je l'ai calculée à peine. Je rentrais, c'était directement dans ma chambre. J'étais seule, voilà, je ne voulais pas trop parler avec les gens. Je sais que même quand j'étais en cours, parfois, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi pour pouvoir m'enfermer dans ma chambre. La perte de ma mère, c'est ça qui m'a le plus posé de problème. Parce que j'étais très proche de ma mère. C'est ça, le deuil qui a été plus compliqué, pas le fait d'être la seule à avoir survécu. Et puis, bah, l'année 3e, c'est terminé. Je suis repartie aux Comores pour la première fois parce que ma mère, elle est enterrée là-bas et parce que vu que la première fois j'étais pas arrivée là, je suis arrivée on va dire et je suis montée dans l'avion. J'ai stressé un peu à l'atterrissage, mais voilà, mon père il était à côté, il m'a dit t'inquiète pas et tout va bien. J'ai repris l'avion plusieurs fois après l'accident. Ça m'a permis, on va dire, pas de tirer un trait, mais vraiment faire mon deuil et de voir où elle était, de retourner là-bas. Et puis, une fois rentrée, oui, j'allais mieux. J'ai pas eu le syndrome du survivant, dans le sens où je me suis pas sentie coupable à un moment donné. Et puis, en fait, ça s'est fait petit à petit, enfin... Si, je me suis déjà dit, oui, je suis la seule à avoir survécu, mais jamais dans le sens... Ah ouais, tous les autres, ils sont morts, mais pourquoi moi, j'ai survécu? Comment ça se fait? Oh là là, mais eux, ils étaient là, enfin... J'y pense, mais pas de cette manière-là, quoi. Déjà, de une, je suis croyante, donc moi, on m'a appris que, voilà, c'était le destin, que tout était écrit. Eux, c'était leur jour, voilà, ça devait se passer comme ça. Voilà, la religion aussi, ça m'a beaucoup aidée, parce que ça me permet de relativiser, pas me dire, ouais, mais pourquoi eux et pas moi? Enfin, voilà, moi je me dis, c'était pas mon jour.
Thank you.
France Culture, les pieds sur terre.
Mon équipe et moi-même sommes très heureux de vous souhaiter une nouvelle fois la bienvenue sur cet Airbus A380. Pendant toute la durée du vol, nous aurons le plaisir d'être à votre service pour vous offrir confort et sécurité. À tout moment, n'hésitez pas à nous solliciter par un signe ou à l'aide du bouton placé sur votre accoudoir.
Je m'appelle Thomas Loustalo, j'ai 25 ans. Donc j'avais 15 ans, j'étais parti pour un voyage linguistique d'un mois. Je n'avais absolument aucune appréhension dans l'avion. Et donc le vol se déroule très bien. Jusqu'à ce qu'on arrive près de Toronto. Donc là, l'avion commence à tourner en fait, autour de l'aéroport. Et depuis quelques minutes déjà, on sentait qu'il y avait quelques turbulences. Puis, d'un seul coup, sans qu'on ait réellement eu le temps de s'y préparer, l'avion touche le sol, comme un atterrissage standard. Et les passagers commencent à applaudir le pilote. Je me tourne vers mon ami et je lui dis ben moi, j'applaudirai que quand l'avion sera arrêté. Je termine à peine ma phrase que là, un énorme choc secoue l'appareil. Et là, tout l'avion se met à trembler, à trembler, à trembler. Les soutes à bagages au-dessus des passagers s'ouvrent, les bagages tombent, il y a des gens qui étaient mal attachés qui sautent plus ou moins de leur siège, enfin bref, le chaos absolu, l'avion commence à tressauter, en fait on avait percuté les barrières de l'aéroport puisque l'avion n'avait pas du tout ralenti. Je me suis accroché au siège de devant, pendant tout le temps que ça a duré, je me répétais « je vais mourir maintenant, 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 maintenant ». Et à chaque fois que je disais « maintenant », je m'attendais à ce que ce soit la coupure, quoi, la fin, et que tout s'arrête là, instantanément. Et d'un seul coup, un deuxième choc très violent, boum! Et là, on se retrouve arrêté, penché le nez vers l'avant. Et à ce moment-là, il y a eu un moment de flottement dans l'avion, et pas un bruit. Pendant quelques secondes, tout le monde est resté là. Et donc à ce moment-là, aussitôt quelqu'un a crié, donc en anglais, il y a le feu dans l'avion, il y a le feu dans l'avion. Et c'était incroyable. Et alors, il y avait de toutes sortes de réactions. Il y avait des gens qui se mettaient à prier. Je me rappelle d'une fille qui était à côté d'un hublot. Elle luttait pour enlever sa ceinture alors que son hublot fondait à côté d'elle. Et bizarrement, c'était pas du tout rationnel, mais j'étais persuadé que j'allais m'en sortir. Là, par un hublot dans ma diagonale gauche, j'avais le visuel sur l'aile gauche qui était en feu. Donc, je voyais le feu clairement. Là où réellement la vague de panique a commencé, c'est lorsqu'une hôtesse de l'air a essayé d'ouvrir une porte, la porte la plus proche de nous, mais qui donnait sur l'aile en feu. Elle a ouvert l'aile et une énorme langue de flamme est rentrée dans l'avion. Et là, l'hôtesse referme. Alors la pauvre, elle lutte avec la porte. Boum, elle referme la porte, elle court. Elle dit « à l'arrière, à l'arrière ». Elle commence à courir pour remonter l'avion. Et à ce moment-là, donc moi, je me suis levé de mon siège. Il y avait des gens qui criaient en français et en anglais, alors des gens qui criaient « Poussez-vous, allez, avancez, avancez !» pour sortir de l'avion, « Dégagez !» C'était vraiment violent, puisqu'à ce moment-là, il n'y a plus tout le vernis de la société s'efface, littéralement. Là, je me rends compte que l'intérieur de l'avion brûle, que j'ai de plus en plus de mal à respirer. Et surtout, ce qui m'a fait prendre conscience qu'il était temps de bouger, c'est que eh bien, je ne voyais plus grand monde autour de moi. Et quand je dis plus grand monde, c'est je n'ai pas vraiment le souvenir même d'avoir vu quelqu'un. Donc, je me dépêche. Hein, là, je cours, quoi. Je sors dans l'allée. Je remonte l'avion en m'appuyant sur les sièges, puisque l'avion était incliné. Donc, je monte, je me dirige vers la porte de sortie. Et il y avait l'hôtesse de l'air qui était là, qui me faisait de grands signes. Elle était à la porte. Et elle me disait « Jump, jump, jump !» Et là, je m'arrête. Je m'arrête. Et je lui dis « Wait !» Et je repars en arrière. Et en fait, tout simplement parce que je savais que j'avais mon sac à dos dans le compartiment à bagages au-dessus de mon siège. J'ouvre le compartiment, je récupère mon sac, je repars en retournant cette porte. Je revois l'hôtesse de l'air qui me regarde avec des yeux complètement ahuris. La pauvre, elle attendait que je saute pour sauter aussi. Et donc je saute, j'arrive en bas et j'atterris dans une énorme flaque de boue. Je me relève avec mon sac. Il faisait pas nuit, mais la visibilité était mauvaise puisqu'il était 6h du soir et qu'il y avait beaucoup de nuages. Il pleuvait à torrents. C'est entre autres une des causes du crash puisque la tour de contrôle de l'aéroport avait été foudroyée, ne fonctionnait plus. D'où l'ordre qui avait été donné à notre avion de se poser alors que les conditions étaient mauvaises. Et là, je me tourne vers l'avion sur ma gauche. Je vois cet avion énorme, penché, en train de brûler avec des flammes gigantesques. Et donc j'ai tapé un sprint, littéralement, j'ai couru. Donc je m'éloigne et je me retrouve sur une route puisque l'avion en fait a traversé deux routes, je crois, deux petites routes, avant de s'arrêter à proximité d'une autoroute à, je crois, 6 voies. Donc vous voyez, il était temps que l'avion s'arrête. Ça a eu un impact énorme sur ma vie personnelle parce qu'à un moment je me suis retrouvé à me poser des vraies questions, quoi. Par exemple, j'avais 15 ans à l'époque. Donc moi, je voulais m'engager dans l'armée. Je voulais bouger, quoi. Je voulais rentrer dans des unités combattantes, quoi. Et je me suis vraiment posé la question. Et à ce moment-là, je me suis dit, écoute, c'est simple, Thomas, il y a deux solutions. Soit tu choisis la facilité, tu acceptes qu'il y a des choses qui te font peur, et donc tu évites les choses qui te font peur. Et la deuxième solution, bah, tu fais face à tes peurs et t'avances. Si je prenais la voie de la facilité, je pense que ça m'aurait suivi toute ma vie, en fait. Et là, j'ai tellement su faire face à mes peurs que je suis officier dans l'armée de l'air. Et en fait, je suis parachutiste. Quand je monte dans l'avion, bien sûr, on avait l'appréhension du saut, mais je veux dire, c'est mon métier maintenant.
Hervé Rey, j'ai 55 ans et voilà, j'ai travaillé d'abord à Air Inter comme steward, puis chef de cabine, et j'ai terminé ma carrière il y a 4 mois comme chef de cabine principal sur long courrier. Donc ça s'est passé sur un vol Paris-Houston, qui est un vol assez long, qui doit faire 11 heures, un peu plus de 11 heures de vol. Je sors de ma couchette et juste en face, j'ai vu un passager qui était assis sur un siège d'équipage. Donc quand j'étais pas très réveillé, j'ai demandé à une hôtesse, j'ai dit tu peux lui demander qu'il libère le siège et qu'il... Puis j'ai tourné la tête et j'ai vu un attroupement des personnes, il s'est passé quelque chose. Donc je suis allé voir et bah, c'est ce monsieur qui était par terre, en fait, qui avait fait un malaise, donc il avait perdu connaissance. Donc là on regarde, on a tout un bilan à faire, hein, de voir s'il a conscience, on le pince. Donc, monsieur, est-ce que vous m'entendez? On lui prend la main, on essaie d'avoir un contact, de voir s'il réagit pas. Ensuite on regarde s'il y a un pouls, on regarde s'il y a une respiration, et puis on s'aperçoit quand il n'y a pas de respiration, il faut faire une réanimation, quoi. Donc là la procédure elle est très claire, c'est que c'est uniquement avec accord du commandant de bord. On fait un appel médecin, ça fait, on fait une annonce en disant un de nos passagers a besoin d'un avis médical, s'il y a un médecin à bord. Et là, on a quand même eu de la chance puisqu'il y avait un urgentiste donc, qui travaillait au SAMU, l'équivalent du SAMU au Mexique, et un cardiologue. Donc on était 3, hein, c'est une situation confortable, avec donc 2 professionnels. Donc là, je constate en faisant le bilan, je m'aperçois qu'effectivement, tout, rapidement, il n'y a plus de respiration. Et voilà, ensuite, je lui détache sa ceinture, je lui détache son col, on fait tout pour le mettre à l'aise, etc. On a fait le massage cardiaque à 2. Moi, par exemple, je faisais mes 15 massages cardiaques. Le médecin faisait des insufflations bouche à bouche. Et ensuite, le massage cardiaque était repris par le deuxième médecin. Quand on commence un massage cardiaque, si j'ai pas un médecin avec moi pour me dire quand arrêter et tout, j'ai pas le droit d'arrêter. Tant qu'un médecin dans l'avion ou le SAMU en ligne nous a pas dit vous arrêtez. Et moi, je prenais le temps. Donc, j'ai regardé l'heure, je lui disais, ça fait 5 minutes, ça fait 7 minutes. Ça fait... Et là, c'est vrai que plus le temps passe, on se dit, ça commence à être un peu mal parti pour le monsieur, quoi. Je me souviens que au moment de l'atterrissage, donc on a fait l'atterrissage à genoux, hein, mais je me souviens qu'après l'atterrissage, avoir annoncé 25 minutes. Ça faisait 25 minutes qu'on massait et il n'y avait toujours aucun résultat, quoi. Et là, bon, c'était aux États-Unis. On a fait un atterrissage médical, hein. On s'est posé à Saint-Louis au lieu d'aller à Houston. Et là, bon, il était pris en charge par la santé américaine. Et bon, donc, ils l'ont mis sous oxygène et ils l'ont emmené. Et malheureusement, on nous a annoncé, une demi-heure après, on avait reçu un message pour nous dire qu'il était décédé pendant le trajet, quoi. Mais c'est fou parce que vraiment, c'est un vrai combat, hein. Quand on est dans le massage, on est dans l'action et puis on sait ce qu'il a fait, on est dans la technique et puis c'est une forme de lutte. Et quand on arrête, après, on a vraiment la personne qui réapparaît. J'ai son visage qui m'a... Je pensais souvent à ce visage, quoi, de ce monsieur inconscient, etc. Même le contact de la peau, etc. ressort. On a vraiment des images assez fortes. On revient humain, quoi.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre dans nos quartiers d'été, une émission spéciale pour ceux qui hésitent encore entre le train et l'avion, qui ne partent pas du tout en vacances. Cela les réconfortera peut-être. Et ces accidents, je le rappelle tout de même, sont extrêmement rares. Un reportage de Valérie Borst réalisé par Perré Legras. Merci à Baya Bakary, à son père Cassim, à Henri Elie, à Thomas Loustalo, à Camille, à Caroline, à Hervé Ray, à Marcel et à Juliette. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 8 juin 2015. Sandrine Chapon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Céline Autin, c'est notre stagiaire. Makes me ache.